dit à peu près le thème de son qui sous-tendrait la présidence du culte. Et j'ai été frappé par ce texte justement que Johanna nous a lu tout à l'heure, de Dieu qui est si précis avec son peuple. Et dans le chapitre 1, qu'il dit, voilà, c'est même pas la peine de tendre les mains vers moi, c'est même pas la peine de me prier, je ne vous écouterai pas. Et qui finit aussi le texte, ce grand livre d'Ésaïe, en disant si vous jeûnez en faisant juste l'air de jeûner, même si vous vous traînez dans la poussière, ça ne m'intéresse pas si au fond du cœur vous n'êtes pas là prêt à faire des actes pour moi, à libérer des gens, etc. Et donc je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui pourrait nous, dans une église locale comme la nôtre, et dans notre église locale, c'est pas la peine de penser aux autres, d'abord pensons à la nôtre. Qu'est-ce qui pourrait nous rendre religieux, faire de nous une église qui ne serait plus qu'une église religieuse, à qui Dieu dirait « j'écoute même pas vos prières, ça ne m'intéresse pas ». Et j'ai pensé que un des symptômes, je dis bien un des symptômes, d'une église religieuse, alors, je ne sais pas si apparemment ça ne marche pas. Je vais attendre que ça marche. Enfin, je vais continuer. Un des symptômes d'une église religieuse, j'appelle ça le symptôme de l'église tas de sable. C'est-à-dire que quand on est... Ça marche ? Quand on est un tas de sable, chaque grain touche l'autre par un point. Mais c'est tout, c'est la seule relation qu'il a. C'est ce que j'appelle le paradoxe. On est ensemble, chacun pour soi. Ce qui est vraiment un paradoxe. On est ensemble en église, chacun pour soi. Et là aussi, c'est peut-être chacun vit avec son passé. Moi, j'ai vécu dans mon enfance dans une église où les gens se voyaient trois fois par semaine. Mais je connais des frères qui se sont jamais vraiment parlé. Si pour dire comment vas-tu, ou alors quand quelqu'un était malade, là on s'intéressait à lui. Voilà. Ou quand il y avait un problème dans l'église, on commençait à parler des problèmes de l'église. Mais jamais. Je connais des gens qui jamais n'ont parlé l'un à l'autre pour dire comment toi tu vas avec Jésus. Ça, c'est ce que j'appelle une église tas de sable. On est ensemble, mais tout seul. Et je crois que c'est typiquement un symptôme d'une église religieuse, où on vient faire des actes, on vient quelque part s'encourager parfois, on écoute les messages, mais il n'y a jamais de relation entre les frères et sœurs. De relation, je dis bien, on se serre la main ou on se fait la bise. Mais en fait, c'est plutôt une relation habituelle. Et d'ailleurs, c'est des églises qui, en général, se tournent vers elles-mêmes et ne grandissent pas parce que, justement, il n'y a pas cette idée de faire grandir l'autre et de laisser l'autre me faire grandir. Et je crois que il y a deux raisons essentielles, bibliques, qui font que nous devons, justement, nous orienter complètement autrement que dans un modèle d'église tas de sable. La première raison, c'est qu'une église est un corps. Mais avant cela, je voudrais faire une petite parenthèse sur la méthode. J'aime beaucoup, vous l'avez peut-être remarqué, plutôt prendre un texte et le décortiquer, on l'a tous sous les yeux, et puis on lit un seul texte et on apprend de ce texte. Et donc c'est assez facile parce qu'on a la Bible ouverte et puis voilà, on reste là avec le texte biblique sous les yeux. Quand, comme aujourd'hui, on choisit plutôt un thème à développer, on prend des versets un peu partout dans la Bible, et c'est bien de le faire aussi, pour voir comment ils peuvent se rejoindre, se compléter, puisqu'on nous dit dans la Bible que la Bible s'interprète par elle-même. Et donc c'est bien de prendre plusieurs textes et de voir comment ils se complètent sur un sujet donné. Mais c'est plus compliqué quand on est à ma place, parce qu'on vous demande d'ouvrir dans Actes 6, après on vous demande Matthieu 25, et puis ensuite Genèse 3, etc. Alors tout le monde cherche dans sa Bible. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre dans ces deux domaines que je vais vous expliquer. Le premier étant que l'Église est un corps. On va lire des textes en les lisant dans la Bible. Et ensuite, sur l'application de ces textes, eh bien, je les ai écrits directement sur la diapositive. J'aime pas trop ça, ça donne moins, je trouve, de valeur au texte biblique parce qu'on les tire de la Bible. Mais on est obligé dans ce cas-là, parce qu'autrement, j'y serais là pendant 2h30, je pense que ce serait un peu trop long pour vous. Déjà que j'ai l'habitude d'être un peu long, je reconnais. Donc, on va faire comme ça. Deuxième chose aussi, c'est de dire que ce que je vais vous dire là, en fait, c'est une collaboration de travail entre Stéphane et moi, où on a réfléchi sur ce thème d'avoir des liens entre les uns entre les autres dans l'Église. Et donc, on a construit en fait ce message ensemble. C'est moi qui ai le privilège de vous le délivrer, mais c'est un travail à deux. Merci Stéphane. Donc le premier domaine, c'est que l'Église n'est pas un tas de sable, mais que c'est un corps. Et le verset le plus important dans ce... Alors là, du coup, le premier, je l'ai écrit, c'est ce verset qu'on trouve dans Romains 12, verset 5. « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc c'est quand même autre chose qu'une relation entre deux grains de sable qui se touchent juste, et en plus c'est de la silice, donc c'est un matériau très dur, donc c'est vraiment en un point qui se touche. Dire qu'on est membres les uns des autres, c'est qu'on a on a des relations vitales les uns entre les autres. Je vous invite à lire d'autres textes, et le premier étant dans 1 Corinthiens 12, d'ailleurs ils seront 12, tous dans 1 Corinthiens 12, et là, on peut ouvrir notre Bible et lire des versets. Donc, comme on ne peut pas lire tout le chapitre, j'ai pris quelques versets un peu, je dirais pas un peu n'importe comment, mais un peu dans le désordre, ça c'est sûr. Mais le désordre est en fait un ordre. Au verset 27, Paul, ce qu'il avait dit aux Romains, le redit aux Corinthiens, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Nous sommes le corps de Christ. Et d'ailleurs, on avait un jour aussi étudié un texte de Bonhoeffer là-dessus, qui dit que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. C'est uniquement parce que nous sommes tous comme des cèpes, des sarments branchés sur le cep. Nous sommes tous attachés au cep que nous sommes frères et sœurs. Et nous sommes tous frères et sœurs parce que Jésus-Christ est notre sauveur commun. Et donc là, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a donc des relations vitales entre nous. Au verset 18, il est noté, en fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, mais où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « j'ai pas besoin de vous ». On voit donc à travers ce texte que chacun a besoin des autres, et qu'on n'est pas tous une tête, comme dit Paul, il n'y a pas qu'un seul organe, on n'est pas tous une tête ou tous un pied, mais on est tous différents. Ou un peu différent, les deux pieds sont quand même différents, mais chacun a sa fonction et se complète, et les uns ont besoin des autres. C'est différent des grains de sable. Au verset 26, justement, il est dit que si un membre souffre, eh bien tous les membres souffrent avec lui. Et on le sait très bien, puisque chacun, je pense, dans notre vie, on a été appelé à souffrir. Et on sait très bien que si je souffre du pied, ma tête le ressent. Si je souffre du bras, ça peut être sur l'ensemble du corps que ça se ressent. Mais en même temps, si quelqu'un se réjouit, eh bien tous se réjouissent avec lui. Il y a donc des relations vitales, des relations vécues ensemble au sein d'une église locale. Et puis les versets 4 à 6 sont aussi intéressants. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Cette belle diversité dans le corps du Christ. Et chaque église locale étant un peu une représentation du corps du Christ, cette belle diversité, Dieu la magnifie, Dieu la rend positive. Et fait que les dons peuvent se compléter. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire, mais je voudrais axer sur cette idée que voilà, nous ne sommes pas un tas de sable, des gens qui sont simplement réunis, mais des gens qui ont des relations les uns avec les autres. Pour peu qu'ils aient en eux la vie du Christ. On peut être aussi dans une église, même depuis longtemps, et en fait, ne pas jouir, ne pas profiter de cette relation les uns avec les autres, ou d'une relation strictement humaine, mais pas de cette relation profonde, parce que n'étant pas en Christ. Et si je partage la vie de Christ, alors je bénéficie de cette communion, parce que chacun de nous, chacun de ceux qui sont en Christ, vivent cette communion de la vie de Jésus en eux, par l'Esprit Saint. Si quelqu'un, même ayant participé aux réunions depuis longtemps, ne pouvait dire « moi je ne sens rien, ma relation avec vous, elle est qu'au niveau humain », je l'invite à, justement à parler peut-être à une de ses connaissances dans l'Église en disant « j'aimerais connaître Dieu, pour l'instant j'ai fait semblant ». Ou j'ai fait semblant, peut-être même sans le vouloir, mais je croyais que je connaissais Jésus, mais en fait je vois que je n'ai pas de communion avec les autres frères et sœurs. Et on peut très bien s'en remettre de ça. Hein. Le Seigneur peut bénir et peut donner cette vie. Il n'est jamais trop tard. Je connaissais un curé qui disait, ou plutôt on m'avait parlé de quelqu'un qui le connaissait, ça fait 30 ans que je suis curé, mais ça fait 5 ans que je connais Jésus. Vous voyez qu'il n'est jamais trop tard. Ça peut être pareil pour nous. Alors ces textes-là, comment les mettre en pratique ? Et c'est là que je vous propose, à travers des textes bibliques uniquement, de dire qu'est-ce que ça fait d'être un corps et d'avoir une relation les uns avec les autres. Eh bien, dans Éphésiens 5, on nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ça fait que si je ne suis pas un grain de sable, mais un membre du corps, je vais dire à l'autre, je me soumets à toi, je sais que peut-être tu as des choses à m'apprendre, tu as des choses à me dire, je peux apprendre avec toi. Et ce que je pense n'est pas forcément exactement ce qu'il faut penser. Et peut-être que tu as une autre vision et qui va se compléter avec la mienne. Je veux me soumettre aux autres. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours dans le même sens. Soumettez-vous les uns aux autres. Aujourd'hui, si je me soumets, demain, c'est peut-être mon frère qui va se soumettre à moi parce qu'il va découvrir en moi quelque chose que lui n'avait pas compris. C'est une notion extrêmement importante dans une église. Et nous proposons d'ailleurs de la mettre comme une valeur importante dans l'église, dans le cadre du projet d'église que nous travaillons au niveau du conseil d'église, être soumis les uns aux autres. Qu'aucun n'impose sa vision, qu'un jour c'est peut-être quelqu'un qui va avoir raison et on va sentir que le Saint-Esprit est vraiment que le Saint-Esprit par cette personne nous enseigne quelque chose, et un autre jour ce sera une autre personne. Peut-être qu'on entend beaucoup moins, ou etc. Et si j'ai cet esprit de soumission les uns aux autres, alors dans la crainte de Christ, c'est-à-dire en mettant Christ au-dessus de tout, alors nous allons ensemble grandir et découvrir des choses et resserrer les liens entre nous. Une autre chose très très concrète dans Colossiens, Paul nous dit de nous instruire et même de nous avertir les uns les autres avec la parole de Dieu. Que la parole habite en nous tellement richement que justement on sera tenté de, quand on se rencontre, quand on parle d'un sujet et même quand on mange ensemble, je ne sais quoi, de se dire tiens, mais j'ai lu ce texte, moi est-ce que tu as compris ça ? Moi j'ai découvert ça aujourd'hui, c'est magnifique. Et puis parfois, quand on sent un frère ou une sœur qui est en train de prendre la tangente sur un certain sujet ou une crainte, on l'avertit par la parole de Dieu. Avec amour. Mais ça peut tout à fait aider le frère ou la sœur à ne pas continuer dans cette direction et à revenir vers le Seigneur. Avertissez-vous. Vous voyez, c'est pas juste soyez l'un à côté de l'autre le dimanche matin. C'est aussi veiller les uns sur les autres. Et j'aime beaucoup ce texte pour nous exciter à l'amour et à de belles œuvres. C'est vraiment le mot en grec est vraiment le mot exciter. Et exactement, même si on va un peu plus loin dans un sens plus pratique, c'est donnez-vous des coups de coude. En disant, mais hey, regarde, il y a une belle œuvre à faire là, il y a un truc super, est-ce que tu ne viendrais pas avec moi ? Ou est-ce que tu me parles d'un sujet là, mais pourquoi tu n'oses pas en parler à l'Église ? Nous exciter à l'amour et aux belles œuvres. Ça, c'est pas juste un grain de sable l'un à côté de l'autre. Et dans Thessaloniciens, Paul nous dit encore, exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres. Quand on dit édifiez-vous les uns les autres, c'est pas démolissez-vous les uns les autres. On peut avoir cette tendance-là, surtout quand la vie de Christ n'est pas pleinement en nous, de nous démolir les uns les autres, de critiquer pour démolir. Et Dieu nous dit de nous édifier, c'est-à-dire de nous construire les uns les autres, ce qui n'est quand même pas pareil. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Et sur un sujet encore différent et plus précis, si ton frère a péché, reprends-le. Là aussi, c'est des relations entre nous. Si ton frère a péché, oublie-le, laisse-le, et Dieu va lui montrer. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Si ton frère a péché, reprends-le, va vers lui. Ce n'est pas la démarche la plus simple. J'ai été très frappé, récemment, on parlait avec trois autres frères d'une personne que nous connaissons. Donc c'est des pas trois frères de l'Église, comme ça c'est très clair. Je parle de gens complètement extérieurs à l'Église. Un gars de mon ministère, je parlais d'une situation qui nous préoccupe. Et on se dit, mais toi ce frère, il est en train de s'enorgueillir, mais tellement, il veut vraiment être le gourou de son groupe. Et pourtant il y a du fond chez lui, il connaît Jésus, il y a des choses extraordinaires dans sa vie. Mais ce frère, Dieu dit, voilà, si l'orgueil va au-devant de la ruine, et l'humilité au-devant de la gloire. Et donc, si on prend le texte de Dieu, la parole de Dieu, on se disait, mais malheureusement, ce frère, il ne peut que tomber. Et puis là, il y a un de nous trois qui dit, mais attention les frères, quand il va tomber, ne faisons pas comme le monde, à se moquer de lui, à nous moquer de lui ou à l'écraser. Allons vers lui pour l'aider à se relever. Ça, c'est le chrétien qui reprend son frère. Manifestement, cet homme dont je vous parle ne veut pas changer d'avis. Et parce que Dieu accomplit son œuvre, on peut s'attendre à ce qu'il dégringole complètement. Mais à ce moment-là, comment on va le reprendre ? Non pas en disant « Tu vois, j'avais raison !» En lui disant « Oui, le Seigneur t'a montré ça, viens, on va t'aider, on va te relever. » Ayons des relations entre nous, des relations d'amour, comme le Christ l'aurait fait. Le Christ qui laissait les gens partir, comme le jeune homme riche, qu'il a refusé. Quand quelqu'un s'entête, le Christ n'était pas là pour baisser la barre, en disant « mais si, quand même, il l'a laissé partir ». Mais je suis persuadé que si l'homme riche est revenu le lendemain, Jésus l'a accueilli. Jacques nous dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». Alors, il est clair qu'il est dit dans Jean que si on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout acte mauvais. Donc la confession, elle est d'abord à Dieu. Mais justement, dans cette relation de frères et sœurs qui cédons entre nous, il est parfois bon de confesser les péchés. Tu sais, moi là, j'ai craqué de nouveau. Tu sais, je t'avais parlé que sur ce point-là, j'étais faible. J'ai de nouveau craqué. Est-ce que tu veux encore continuer de prier pour moi ? C'est ça, confesser vos péchés les uns aux autres. C'est chercher l'aide de mon frère, de ma sœur. Être ouvert par rapport à ma vie, en disant « je ne suis pas parfait, aide-moi ». Et puis moi, un jour, c'est moi qui t'aiderai. Et prier les uns pour les autres. C'est tout de suite après dans Jacques. Pour montrer qu'on n'est pas là, justement, dans une relation d'écrasement, de supérieur à inférieur, mais dans une relation d'aide, l'un envers l'autre. Aujourd'hui, c'est toi qui m'aides. Demain, ce sera moi qui vais t'aider. Priez les uns pour les autres. Et avec ce beau verset aussi de l'Ancien Testament, dans les Proverbes, on trouve des versets magnifiques, des perles, et qui dit « Tout comme le fer aiguise le fer », l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des relations entre les frères et sœurs, d'ailleurs aussi de relations avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, et d'être aussi interpellé par ces gens-là, mais entre autres dans l'Église. Le faire aiguise le faire. Donc c'est bien d'avoir des relations. Et même si on n'est pas d'accord, c'est pas de dire « Oh non, je parle plus avec lui, il n'est jamais d'accord. » Mais au contraire, c'est de confronter les idées et d'accepter que mon frère peut avoir raison et que mon frère accepte que parfois je peux aussi avoir raison. Ou que l'un et l'autre, on a tort, mais qu'ensemble, on va trouver la bonne idée. C'est ça qui est formidable. Hier, on était en conseil, il y avait un mot qui nous gênait, qui en gênait plusieurs dans le conseil. Et en discutant, on a trouvé un autre mot et tout le monde était d'accord. Et jusqu'à maintenant, je dirais que c'était plutôt, pas une opposition, mais une incompréhension. Et en discutant entre nous, en s'aiguisant entre nous, on a trouvé le bon mot. Et moi, j'ai vu là vraiment l'aide de Dieu pour nous permettre de trouver ce qui était bien à dire à l'ensemble de l'Église. Et Olivier vous fera une information tout à l'heure. Le faire aiguise le faire. Ne craignons pas donc de nous aiguiser les uns avec les autres. Et puis, il y a aussi l'exemple par excellence, et ça Stéphane l'avait relevé et je trouve ça formidable, c'est l'exemple de Jésus. Alors Jésus, c'est dans l'évangile de Marc, on aurait pu croire qu'il n'avait besoin de personne. Qu'il n'avait besoin de personne, lui le Fils de Dieu. Mais écoutez le récit de Marc, il commença Jésus, c'est donc dans ce jardin de Gethsémané, il commença à éprouver de la tristesse et même des angoisses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà éprouvé des angoisses. C'est pas marrant. Mais c'est possible pour un chrétien d'être angoissé. C'était possible pour Jésus. C'est donc possible pour un chrétien. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il partage. Il partage son ressenti avec trois de ses disciples. Avec tous ses disciples au début, puis après il en prend trois avec lui plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et il leur dit, il exprime ce qu'il ressent. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Vous vous rendez compte comme c'est fort ça, être triste jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte de la tristesse du Christ là. Et ça, il le partage, il ne le garde pas tout seul. Il leur demande à ces trois, « Restez avec moi !» Restez avec moi. Je trouve ça magnifique, mon attitude du Christ. Celui qui n'aurait pas eu besoin d'aide, il demande à ces trois-là, qui n'étaient pas pourtant des grands champions, un qui croyait toujours savoir bien faire, et deux autres qui pensaient qu'ils seraient l'un à côté de l'autre, l'un et l'autre à côté de Jésus dans le ciel. C'était de ça dont ils discutaient alors que Jésus parlait de sa mort. Ce n'étaient pas des grands champions. Et pourtant Jésus les avait pris tout près de lui. Et il leur dit « Restez avec moi s'il vous plaît ». Et veillez avec moi. Essayez que je vive pas ça tout seul. Pourtant, il l'a vécu tout seul, il s'est éloigné d'eux d'un jet de pierre, parce que c'était une souffrance qu'il ne pouvait vivre que tout seul. Mais il savait qu'il y avait ses trois compagnons, pas très loin, et qui veillaient avec lui. Si nous pouvions vivre ça en Église aussi. Voilà, l'Église est un corps, il y a des relations entre nous, nous devons les développer. Avoir, j'irais, l'honnêteté, plutôt la simplicité de développer ces relations. Deuxième domaine où je pense qu'on peut dire qu'on doit avoir des relations entre nous, c'est que l'Église n'est pas un tas de sable, mais l'Église a en son sein des liens d'autorité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que l'autorité dans l'Église ? Paul nous dit dans Romains 13 que toute personne se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Tout cela pour montrer que c'est Dieu qui a créé l'autorité, que la société de tous les hommes ne tient que parce qu'il y a des gens qui sont en position d'autorité et qui gère cette autorité vis-à-vis d'autres qui sont à côté d'eux. Et parmi ces autres, d'autres peuvent être encore en situation d'autorité par rapport à encore d'autres personnes. C'est Dieu qui l'a fait ça. Et c'est étonnant d'ailleurs de dire que voilà, Dieu, il n'y a aucune autorité qui ne soit de Dieu, surtout dans nos pays démocratiques, on a l'impression, nous, que c'est nous qui votons. Certes, nous votons, je le crois, mais en fait, Dieu maîtrise toutes choses. Il n'y a aucune autorité qui ne soit de Dieu, même si ces gens en autorité ne s'en aperçoivent pas ou le refusent. Et donc, a fortiori, dans l'Église, l'Église tient parce qu'il y a des autorités et nous devons les respecter. Alors, disons-en, bon, voilà, un peu plus. Je vous propose de lire ces textes, le premier dans Actes 6. Concernant l'autorité dans la Bible, on avait là une église, celle de Jérusalem, qui grandissait. Et à cette époque-là, donc je lis Actes 6, alors que le nombre des disciples augmentait, donc il y avait beaucoup, de plus en plus de gens dans l'église, eh bien les Grecs murmurèrent contre les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Dans cette église, ils avaient mis en place une association sociale qui venait en aide aux veuves. Et il y avait des veuves juives et des veuves grecques. Et puis apparemment, à cause du nombre et tout ça, eh bien, il n'y avait que des juifs qui s'occupaient des veuves, de toutes les veuves. Et peut-être il y avait une certaine tendance à ce que les serviteurs juifs s'occupaient surtout des veuves juives et puis délaissaient les veuves grecques. Et donc il y a eu une tension un peu dans l'église. Et apparemment, c'était surtout les apôtres qui s'occupaient de ça. Et donc là, les 12 apôtres ont fait une réunion d'église. Ils ont convoqué l'ensemble des disciples au verset 2, et ils leur dirent, voilà, nous, en tant qu'apôtres, il ne convient pas qu'on laisse, c'est intéressant d'ailleurs, qu'on laisse la parole de Dieu, voilà, donc c'est à nous d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, et ça nous paraît primordial et ça nous prendrait trop de temps de nous occuper aussi encore des veuves. Alors s'il vous plaît, trouvez des gens, pas n'importe lesquels, choisissez parmi vous, verset 7, 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons de nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Voilà le début dans une communauté chrétienne d'une structuration. Les apôtres qui faisaient tout au départ disent, voilà, nous on va se concentrer sur l'annonce de la Bible et sur la prière. On veut continuer de prier, avoir le temps de prier. Et donc choisissez des frères qui sont vraiment engagés pour Jésus, qui sont pleins de l'Esprit Saint. Et puis eux, ils vont s'en occuper. Donc vous voyez, ils vont déléguer leur autorité à d'autres. Donc les apôtres avaient reçu leur autorité de Dieu, et une partie de leur autorité, ils vont la déléguer à d'autres pour qu'ils s'occupent d'une tâche précise. Dans 1 Timothée 4, verset 14, Paul dit à son fils spirituel, dit, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné par une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Là, on voit l'autorité des anciens dans une église locale qui discerne chez un jeune frère, en l'occurrence, ça peut être une jeune sœur, un ministère, quelqu'un avait prophétisé en disant « je suis vraiment la conviction que toi tu dois être appelé à ceci » et les anciens, avec l'autorité que Jésus leur donne, lui donnent la bénédiction. Il n'y a aucun influx mystérieux qui passe dans les mains des anciens, c'est simplement pour dire « voilà, je pose mes mains sur toi pour te dire on a la communion et en tant qu'ancien, on prend la responsabilité de t'encourager dans ce ministère ». Et donc il y a une forme d'autorité au niveau des anciens dans l'Église. Et un peu plus loin, au chapitre 5, au verset 17, Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes, etc. J'aime bien que les anciens qui dirigent bien, ceux qui dirigent mal, voilà, ça peut être ça, hein. Ça, juste pour dire, on a vu que les serviteurs qui s'occupaient des veuves tout à l'heure ont été choisis par l'Église, choisissés parmi nous, ont été élus par l'Église. C'est donc pas les anciens qui ont dit, tiens, toi, tu seras, tu feras ça, tu feras ça. C'est l'Église tout entière qui a choisi, ou élu, c'est le même mot en grec, des serviteurs pour s'occuper des veuves dans cette Église de Jérusalem. De même, c'est l'Église qui choisit les anciens, qui discerne et qui choisit les anciens. Et dans notre pratique, dans notre Église locale, on vote, on choisit, voter, c'est choisir. Et on peut, une Église peut, et j'en ai vu malheureusement, se tromper. Hein, parce que quelqu'un, il parle très bien, alors on dit, ah ben celui-là, il est super. Et puis, en fait, il parle beaucoup, oui, mais sa relation avec le Seigneur, elle n'est pas terrible, quoi. Ou alors, voilà, quelqu'un de très riche, qui aide, on sait qu'il aide, qui donne la moitié des dons que reçoit l'Église, c'est cet homme-là, donc il faut au moins le mettre en ancien, autrement il va être... voilà, et d'ailleurs, il le demande plus ou moins. Oh, grosse erreur. Grosse erreur. Le fait d'être riche et peut être très bien hein, pour une Église, et pour quelqu'un, et Dieu bénit les riches aussi, mais on peut être riche et pas forcément appelé à être ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette expression qui est un peu, à mon avis, ironique de l'apôtre Paul, que les anciens qui président d'une bonne manière soient estimés, etc. Et puis, quand même, ce dernier texte qui montre comment Jésus parle de l'autorité. Et donc quand on parle d'éthique, du pouvoir dans ce monde, on ferait bien de reprendre l'éthique de Jésus. C'est-à-dire comment Jésus voit le pouvoir. Et c'est assez frappant, c'est tout à la fin de Luc, dans Luc 22, Jésus arrivé justement à ce grand jour où il a été l'agneau sacrifié, Luc 22, verset 24, Luc dit qu'il y a une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Et Jésus leur dit, écoutez ça, « Les rois des nations dominent sur les peuples, et ceux qui exercent leur pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que ce ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui commande soit comme celui qui sert. » En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Autrement dit, Jésus dit, ne prenez pas l'exemple du monde. Et si toutes les entreprises de France choisissaient de manager leur personnel comme le conseille Jésus, et dans certaines entreprises, d'arrêter d'écraser les salariés, ou dès qu'on a une place de chef, on veut le montrer en coupant toute information, en imposant des décisions sans en parler aux autres. Je peux vous dire que l'économie irait mieux en France, si comme Jésus, tous les chefs étaient serviteurs de ceux qui sont sous leurs ordres. Eh bien, c'est ça l'autorité selon Jésus. Et Stéphane l'avait bien développé une fois. Jésus était au milieu des autres comme celui qui sert. Il ne cherchait pas son identité à travers le fait d'être au-dessus de tous. Il était comme celui qui sert. Et chacun de nous a quelques positions pour l'appliquer à l'Église, a quelques positions d'autorité que nous soyons dans l'Église. Si nous ne sommes pas comme celui qui sert ses frères et ses sœurs, alors on se trompe complètement. Et si nous cherchons une position pour être dans tel ou tel conseil, ou responsable de telle activité, si c'est une position que je cherche, je me trompe complètement. Par contre, si le Seigneur me demande de servir dans cette activité, de le servir lui et de servir mes frères, alors je ressemblerai à Jésus. Alors, pourquoi je vous dis ça? Au niveau des liens qu'on peut avoir entre frères et sœurs. En pratique, l'autorité dans l'Église, beaucoup de textes parlent d'une expression qui se répète et qui est « rendre compte ». Et je pense que c'est important aussi dans une Église. Dans Luc 16, vous savez, c'était l'histoire d'un intendant, donc quelqu'un, un serviteur, comment on pourrait l'appeler un intendant, si je dis encore intendant. Oui, intendant, ça va? Tu es d'accord, Elisabeth? Anne-Elisabeth? Alors, Alors, et l'intendant, il était complètement véreux, en fait, et puis il faisait n'importe quoi, et son maître s'en est aperçu. Il est arrivé, il lui a dit « Rends-moi des comptes de ton administration. » Eh oui, si le Seigneur nous donne une autorité, un jour il nous rendra des comptes, il nous demandera des comptes. La même chose dans Matthieu 25, c'est le Seigneur qui a distribué, le Seigneur, oui, en interprétant, c'est un homme qui avait une grosse entreprise et qui est parti et qui a laissé de l'argent à chacun, à trois de ses serviteurs, l'un 10, l'autre 5 et l'autre 2, je crois, ou une, hein, merci, voilà, et en fait il est revenu. Et il a réglé, voilà, le maître de donc revint et leur fit rendre des comptes. Donc si nous avons une autorité, elle ne vient que de Dieu, on l'a lu tout à l'heure. Donc au final, de toute façon, on rendra des comptes à Dieu. Mais déjà maintenant, si j'ai une quelconque responsabilité dans l'Église, je dois rendre des comptes. Pareil, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et puis ce verset-là, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans Job. Vous savez, Job, il discutait avec un petit peu d'arrogance, tout à fait, c'est très juste, un peu d'arrogance avec Dieu. Et ce verset qui est très beau, « Pourquoi contestes-tu avec Dieu ? Car d'aucune de ses actions, il ne rend compte. » S'il y en a un qui ne rend pas des comptes, c'est Dieu. Parce qu'il est au-dessus de tout. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons forcément des comptes à rendre. C'est pas forcément négatif, hein. Mais voilà, expliquer ce que nous avons fait. Comme celui qui avait reçu 10 pièces, il a dit, Seigneur, j'en ai gagné 10 autres, et le Seigneur lui dit, ah, viens, rentre dans la joie de ton maître. Vous voyez, donc rendre des comptes, c'est peut être très positif, hein. Et puis d'autres qui n'ont rien fait, ben, le Seigneur leur dit autre chose, quoi. Mais c'est pas forcément négatif. Les textes aussi dans Corinthiens ou un Pierre qui parle de nous comme des administrateurs ou administratrices, qu'on nous considère comme des serviteurs du Christ, des administrateurs des mystères de Dieu. C'est beau cette expression. Tout ce que Dieu nous a révélé dans la Bible, ce que Dieu nous a fait découvrir, c'est des mystères parce que les hommes ne comprennent pas ça. Mais c'est ce que dit Paul au début de Corinthiens, ça ne rentre pas dans la tête des hommes humains. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ça. C'est donc des mystères. Mais ça, ces mystères-là, on peut les partager entre nous. Et on est même tous des administrateurs ou des administratrices des mystères de Dieu. C'est-à-dire que c'est notre affaire à nous. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut organiser, administrer, ça veut dire organiser. Faire fructifier, faire fonctionner. Et Pierre nous dit, et ça rejoint d'ailleurs l'idée du corps, comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, ou des divers cadeaux de Dieu, tous les cadeaux que Dieu nous a donnés, il faut les faire fructifier, il faut les partager, les faire que chacun s'en saisisse, que des gens non-croyants découvrent l'Évangile, et qu'une fois avoir découvert l'Évangile, les faire grandir comme disciples, et puis les faire grandir comme ouvriers, et qu'ils puissent ensuite avoir des ministères, être envoyés. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Vous avez reçu un cadeau de Dieu, mettez-le au service des autres. Et plus vous le donnez, vous en ferez bénéficier les autres, plus ce don grandira chez vous. On est administrateur de tout ça. Voilà, je voulais, à travers ces deux notions, le corps de Christ et d'autorité dans l'Église, montrer qu'il y a des relations entre nous. Alors, ça ne vient pas. Donc je dis que l'Église, c'est tout sauf un tas de sable. Je dis qu'en fait, quelque part, nous sommes redevables les uns envers les autres. Et donc, quelque part, on parle, c'est un mot qui est assez à la mode en ce moment, dans le milieu évangélique, mais bon, il est un peu, ça vient de l'anglais, il n'y a pas de mot qui existait en France, mais en français. Mais redevable, ça veut dire, on en tire la redevabilité. C'est-à-dire, je dois quelque chose à chacun de mes frères et sœurs, je suis en relation avec eux, et ils me doivent aussi quelque chose, c'est dans les deux sens. La redevabilité. Alors dans les valeurs qu'on a choisies pour l'Église, on a plutôt retenu la soumission les uns aux autres, mais c'est pas que la soumission au sens je me soumets en étant plus petit, mais c'est que j'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi. C'est ça la redevabilité. Je compte, en anglais c'est plutôt ça, accountability, mais on a du mal à traduire en français. Je regarde Monique. Mais je compte sur l'autre pour vivre et l'autre doit pouvoir compter sur moi. On peut dire comme ça, tiens, c'est mieux. Je compte sur l'autre pour vivre et l'autre doit pouvoir compter sur moi. Et donc, il y a cette forme de redevabilité spirituelle. En tant que membre du corps, je dois encourager la vie spirituelle dans mon frère et dans ma sœur. Alors, pour être encore plus concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait y avoir personne dans l'Église qui se pose la question, ah tiens, je ressens vraiment une difficulté dans ma vie et je voudrais pouvoir le partager avec quelqu'un et dire, mais en fait, je suis tout seul dans l'Église. Je suis en fait un grain de sable au milieu d'un tas de sable et je suis tout seul dans l'Église. Alors bien sûr, on peut avoir des amis en dehors de l'Église, mais c'est franchement dommage si dans l'Église, on ne peut pas partager entre nous. Ça veut dire qu'on ne vit pas cette notion du corps. Alors, il y a des méthodes pour encourager ces relations et cette redevabilité, parce que c'est plus facile d'avoir deux ou trois amis avec qui je partage tout, parce que c'est vrai qu'il y a des questions de sensibilité, de compatibilité parfois. Et en fonction de notre caractère, on est plus ou moins attachés aux uns aux autres, et c'est aussi quelque chose de normal. Et donc, on peut des fois se retrouver en groupe de deux ou trois et former, je vais laisser Jonathan le dire, former un groupe de croissance quand même. Alors, bon, excuse-moi, je te prends à froid là. Donc, je suis aussi fan que Jonathan des groupes de croissance qui sont des groupes de trois personnes, soit trois hommes, soit trois femmes, qui se retrouvent, il y en a dans l'église, qui se retrouvent chaque semaine après avoir lu entre 15 ou 30 chapitres, de 15 à 30 chapitres de la Bible, et qui partagent, non pas pour dire, tiens, je comprends ceci, je comprends cela, mais qu'est-ce que le Seigneur m'a montré à travers ces textes, et qui prient ensemble et qui confessent leurs péchés les uns aux autres. Donc ça c'est une méthode, mais c'est pas la méthode, mais elle est très bien. Mais ça peut être justement d'avoir un lien d'amitié fort avec des gens de l'Église, tellement proches qu'on peut partager des choses entre nous pour s'aider à grandir ou s'aider à découvrir la beauté de la Bible et la beauté du Seigneur et la bonté du Seigneur, de créer des liens entre nous, de cultiver ça. Et si quelqu'un ici se trouve plutôt grain de sable que membre du corps, je l'invite à parler à un frère ou une sœur qu'il connaît bien, ou à défaut, à un ancien, pour que ces relations s'établissent et que le corps grandisse parce qu'il y a des relations entre les membres du corps. On est redevables les uns aux autres. Je dois pouvoir compter sur mon frère et mon frère doit pouvoir compter sur moi. Et puis, il y a aussi une redevabilité, j'allais dire, dans le service. Comme serviteur et servante du Seigneur, pour être aidé ou aidée dans le cadre d'une relation d'autorité. Quelqu'un qui a l'autorité dans l'Église, il est là pour aider celui dont il a la charge, ceux dont il a la charge. Et pour ça, dans l'Église, on a récemment mis en place, mais on n'a pas suffisamment mis en œuvre, et on veut le mettre en œuvre, on en a parlé aussi hier en conseil, un tableau avec les différentes grandes activités de l'Église, et pour chaque activité, un responsable, et pour chaque groupe d'activité, un référent, qui est donc un membre du conseil d'église, qui est référent. Donc si un responsable veut parler d'un problème ou d'une joie au conseil d'église, il sait à qui il s'adresse, et ce référent dit, voilà, un tel m'a parlé, je vous partage cette joie, c'est formidable, et puis la prochaine fois, je l'inviterai au conseil pour qu'il puisse le dire lui-même. Ou de gérer des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, ça existe toujours, les choses évoluent, etc. Il y a des relations qui doivent se tisser entre les différentes activités, des concertations. Mais être référent d'une activité, c'est avoir une certaine autorité, autorité pour aider et servir ceux qui sont dans cette activité. Mais être référent, ça veut dire rendre des comptes au conseil. On te demande de prendre cette responsabilité, rends des comptes au conseil. On te demande d'être responsable de, je sais pas moi, du bâtiment de l'église. T'inquiète, c'est peut-être un peu lourd, d'ailleurs on ne trouve pas de responsable en ce moment. C'est peut-être un peu lourd, même très lourd parfois. Donc on va peut-être le diviser en différentes branches. Mais on te le demande, mais on est là pour t'aider à le faire. Et si tu as un problème, tu as un référent, et le conseil sera là aussi pour prendre des décisions si elles ne doivent pas être prises à ton niveau. Mais rends-nous des comptes, ne fais pas ça tout seul, ne prends pas des décisions tout seul. Parce que si tu fais tout seul, alors tu n'es plus dans le lien d'autorité, et c'est une activité qui ne sera pas forcément bénie. Parce que, justement, c'est ceux qui sont, entre guillemets, en haut, sont là pour te protéger, t'aider et te conseiller. Et qu'on fasse tous ensemble. Donc les relations d'autorité créent des liens les uns avec les autres, des liens d'autorité, des liens de, donc, où on est au service des autres pour les aider comme Jésus l'était. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour que dans l'Église, nous ne soyons pas justement tas de sable, mais vraiment un corps qui grandit parce qu'il accueille des gens qui ne sont pas encore chrétiens et qui découvrent Jésus, et qui grandit parce que ceux-là, et tous ensemble, ces membres grandissent ensemble pour de plus en plus ressembler à Jésus. Et aussi pour vivre cette relation d'autorité équilibrée avec des comptes rendus réguliers, chacun aidant les autres à agir pour le bien de l'Église. Que le Seigneur bénisse son Église.